Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Dans l'épisode précédent, j'ai choisi d'accompagner le vœu du Normand Benoît Léniel avec la musique du Normand Petit Biscuit avec son tube Sunset Lover. Tiens, Sunset Lover, c'est pas mal pour une transition vers l'épisode qui va démarrer dans quelques instants. Mon invité de la semaine s'appelle Axel Jajike. Axel est auteur et elle se dit féministe païenne. Elle vous expliquera ce que cela signifie au cours de cette conversation sur le plaisir féminin. Et si le 21e siècle était celui du plaisir au féminin ? C'est parti. Le futur commence ici et maintenant. Bonjour Axel.
Bonjour Rebecca.
Merci de m'avoir ouverte les portes de ton chez-toi.
Avec plaisir. Je suis heureuse de t'accueillir dans mon intimité.
Oui, justement le mot intimité, il va être important pour cette conversation, puisque tu as choisi le thème du plaisir féminin.
Absolument.
Ouais. Alors, c'est vrai que c'est un sujet, je ne dirais plus tabou, parce que depuis quelques années maintenant, on en entend de plus en plus parler, ou en tout cas, on lit de plus en plus de choses dessus. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui reste assez neuf.
Indéniablement, il y a un progrès colossal qui a été fait, ouais, sur les 3-5 dernières années, avec une mise à jour du clitoris.
C'est ça, tire ça. On l'a identifié.
On l'a identifié, on l'a modélisé.
C'est ça. On l'a dessiné, parce que même il y a quelques années, il était très peu représenté.
On l'a popularisé, merci à des initiatives comme celle de Cosette, de faire un
le magazine d'ailleurs qui
a des petits problèmes.
Qui a des soucis en ce moment.
En ce moment, j'espère que voilà, ça va juste être une...
Une pause ?
Une étape, parce que mine de rien, elles ont déblayé pas mal de choses sur la manière de représenter les femmes et d'en parler. Mmh. Et ce serait dommage qu'elles disparaissent en fait, du paysage, parce que vraiment, pour le coup, ce serait pas très juste.
Mais oui, c'était enfin peut-être un magazine féminin qui ne soit pas... Enfin, qui explore la femme dans sa richesse.
Mais qui parlait à la femme comme un sujet.
Comme un sujet, oui.
Et c'était les premières à faire ça. Parce que le reste de la presse, c'était au moment où elles sont arrivées. Mais t'avais envie de t'arracher les cheveux. Enfin, moi, j'étais plus de féminin. J'avais été... pour ma part, j'ai été définitivement fâchée avec la pipe ciment du couple duel. Ce jour-là, j'ai dit, c'est fini, plus jamais. Ouais. Vous ne me ferez pas revenir, je n'ai jamais racheté un exemplaire.
Et justement, les magazines féminins depuis beaucoup des dizaines d'années, le plaisir féminin s'était ramené à avant l'été, les 10 positions sur la plage.
Ouais. Mais c'est encore un peu comme ça, même. Hein. Mm-hmm. On t'en parle encore dans la configuration estivale. Moi, j'attends toujours... le jour où peut-être je rachèterai un numéro duel, ce sera un numéro qui titrera « Masturbez-vous ». Voilà. Mm-hmm. Peut-être que ce jour-là, j'irai. Mais dans l'ensemble, ça reste très... perçu d'une manière très conjugale, en plus. Oui. Il y a une espèce de discours sur la conjugalité dans les féminins qui, moi, m'exaspère au-delà de l'entendement.
Ouais.
Mmh. Parce que c'est encore une fois dire aux femmes, vous n'êtes pas complètes tant que vous n'êtes pas en couple, tant que vous n'avez pas trouvé quelqu'un. Et dans le même temps, on est dans cette société où les violences faites aux femmes font la une des éditions. Mmh. Et on n'a pas l'air de faire le rapport entre le fait d'inciter les femmes à être absolument en couple et à leur dire qu'elles ne sont pas accomplies si ce n'est pas le cas, et le fait que peut-être que dans cette course-là, du coup, elles se retrouvent extrêmement vulnérables au discours du premier connard venu qui va qui va s'immiscer dans cette brèche de l'estime de soi qu'elle transbahute. Et du coup, elles vont se retrouver dans des couples et dans des relations qui sont toxiques, mais elles ne sont pas en mesure d'identifier ça parce qu'on ne leur parle jamais avant toute chose du fait que, pour moi en tout cas, la conjugalité, la première manière d'être en couple, c'est déjà d'être en couple avec soi.
Oui.
Donc, si tu ne t'apprécies pas toi comme personne, tu ne sauras pas reconnaître quelqu'un qui sera vraiment en mesure de t'apprécier comme personne. Tu penseras toujours que c'est l'autre qui te donne des raisons de t'apprécier. Et ça, déjà, on est sur un mauvais départ, quoi. Et je pense qu'il y a toute une conversation là qu'on rechigne à avoir sur l'intime et le personnel, qui est pourtant, il me semble, moi, la clé qui pourrait déverrouiller toutes ces situations de violence dont on parle aujourd'hui. Elles ont aussi beaucoup à avoir avec la manière dont on nous parle de l'intime et du couple, et la manière dont on est dressé pour être à la mesure des attentes de l'autre.
Et dans ces attentes, il y a effectivement celui, l'injonction peut-être sociétale de donner du plaisir.
Mais surtout, de donner du plaisir, on est des guichas modernes, quoi. On passe la majeure partie du temps, on entend un discours qui nous dit tout ce qu'il faut qu'on fasse pour être irrésistible dans les yeux de l'autre. Mais moi, j'ai envie d'être irrésistible pour moi, en fait. À quel moment ça se passe? Et ça ne veut pas dire que j'exclus le rapport avec l'autre. C'est juste que moi, j'accueille l'autre dans un espace qui est le mien, que j'ai pris soin de nourrir, de développer, de fleurir. J'accepte de partager cet espace-là avec toi. Et j'attends que tu y fais la même chose de ton côté également. Mais voilà, c'est deux espaces qu'on partage ensemble et on partage le plus harmonieux de cet espace. Je ne te choisis pas pour que tu combles chez moi un déficit d'être ou d'estime de moi-même. Il y a un truc qui ne va pas là, en fait. Et bon, moi j'attends la conversation là-dessus.
Et donc c'est vrai que ne pas donner tout son plein sens au plaisir féminin, c'est justement rompre ce principe d'équilibre, d'égalité dans les relations
Le rapport qu'on a au plaisir féminin, il reflète absolument les questions sociétales qu'on peut avoir aujourd'hui. Ce qui est tabou, en fait, c'est le plaisir des femmes, c'est le fait qu'on puisse être, nous, autonomes. Et moi, j'ai souvent coutume de dire que si le féminisme était un organe, ce serait le clitoris, en fait. Parce que on nous a pourvus de quelque chose qui nous permet d'être autonome, c'est quelque chose qui nous permet de nous inscrire dans notre plaisir. Et si tu pars de ça, le rapport que tu as au monde n'est pas du tout le même. Tu ne vas pas trouver un partenaire, que ce soit un homme ou une femme, pour qu'il te fasse découvrir quelque chose. Tu vas trouver quelqu'un pour partager avec lui dans un espace que tu as choisi toute ta capacité à la volupté, toute ta capacité à la sensualité, toute ta capacité au plaisir, en fait.
Et ça me fait penser d'ailleurs justement à l'excision, qui est c'est retirer la possibilité à la femme d'être autonome dans ce plaisir physique premier, quelque part.
Ce qui est dit dans les sociétés qui le pratiquent, enfin le discours qui revient le plus souvent, et que ça met fin au nomadisme sexuel des femmes. Donc déjà, quand t'as dit ça, t'as à peu près tout dit.
Oui. une conception.
Bonjour. Donc, cette idée que si nous exprimons notre sexualité à notre plein potentiel, ça ne peut être que dangereux, on ne peut être que détraîné à la suite, et on est forcément insatiable, donc pas en mesure de choisir, et on s'enverrait à peu près tout ce qui bouge. Et là, tu te dis, c'est chaud quand même, ça vient de loin.
Mais c'est une pensée d'homme.
C'est une pensée bien patriarcale. Tu retrouves dans toutes les sociétés. Il se trouve juste que celles-là, ces sociétés-là, ont poussé le truc au paroxysme jusqu'à l'inscrire par un acte dans le corps des femmes. Mais cet acte, il parle de la répression du plaisir féminin pour nous toutes. Donc à un moment donné, quand vous regardez cette question-là, quand vous en entendez parler, ne la limitez pas aux pauvres africaines qu'il faudrait aider, qui vivent dans des sociétés terribles, machin et tout. En attendant, ça, ça se pratique chez elles, mais ici, nous, on n'a aucun discours sur le plaisir entre mère et fille, d'abord, des mères aux filles, et on n'a aucun... Rien dans notre société au jour d'aujourd'hui n'encourage l'exploration du plaisir pour les filles. Le désir féminin n'est pas légitime, c'est il ne l'est toujours pas. Donc,
Et puis comme on disait tout à l'heure, toujours penser avec l'altérité et d'un homme en particulier.
Et d'un homme de préférence, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, un partenaire homme ou femme, qu'on soit bien d'accord. Et de toute façon, c'est le partenaire de votre choix, vous faites ce que vous voulez.
Exactement.
Et le truc, c'est que c'est, pour moi, ça, c'est le bas blesse là. Nous ne sommes pas encore assez nombreuses, il me semble, à incarner la joie d'être femme. Nous sommes dans. Voilà, c'est Cartolé qui disait ça. On constitue en fait un corps de souffrance qui a été transmis de génération en génération. Et effectivement, face à ce corps de souffrance-là, on n'a pas réussi encore à créer un corps de joie, en fait. Et je trouve que, enfin, je crois, pour avoir vu ma page Instagram, tu sais que
je mettrai le lien d'ailleurs dans le descriptif de l'épisode.
Tous les jours et tout, etc. Et celui que je voulais mettre aujourd'hui, mais j'ai manqué un peu de temps aujourd'hui, c'était Promote what you love instead of bashing what you hate. Et c'est faites la promotion de ce que vous voulez voir advenir, de ce que vous aimez, plutôt que de perdre votre énergie à défoncer tout ce qui ne vous convient pas. Et moi, je sais que je suis rentrée dans cette
une dynamique
dans cette
positive,
conversation sur le plaisir avec cette idée-là à l'esprit en disant ok, la meilleure façon de lutter contre les atteintes qui sont faites aujourd'hui au corps des femmes et notamment aux mutilations sexuelles et à l'excision, c'est absolument de promouvoir le plaisir des femmes. Il faut absolument qu'à l'échelle universelle, on arrive à avoir cette conversation, on arrive à l'imposer et on arrive à faire comprendre que nous sommes des sujets dans cette conversation-là. Il n'y a pas de raison pour que les hommes, encore aujourd'hui, t'as l'impression que c'est le sexe, c'est leur chasse gardée, en fait. Et que nous, on est là que pour le subir. Et il y a un petit truc là où tu te dis, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas faire entendre notre voix sur le fait qu'on est sujet, se réapproprier cette conversation-là, parce que il y en a encore beaucoup trop qui pensent que contraindre l'autre à leur désir est une manière d'être homme. Mais pourquoi non ? C'est tellement plus... Enfin, moi, vraiment sur parole, je pense que c'est beaucoup plus kiffant d'avoir une femme qui a envie de vous, qui a autant envie de vous, et envie de cet acte, et envie de partager un rapport sexuel avec vous, que d'avoir quelqu'un qui se sent juste obligé de céder à votre désir.
Enfin, c'est à ce devoir conjugal.
Au devoir conjugal qui est quand même
rien que
un
cette
terme
expression,
horrible, mais tellement horrible que... Voilà, mais ça... Ça a concerné nos mères, nos grands-mères et nos arrière-grands-mères. Moi, je sais que j'appartiens à la première génération, enfin non, pas la première, parce que maman l'a fait avant moi, mais dans d'autres conditions, où je suis libre de mon plaisir, en fait. Où mon plaisir a droit de cité et où, luxe absolu, j'ai eu le droit de choisir l'homme que j'ai épousé, l'enfant que j'allais avoir, de quitter cet homme, d'avoir les amants que j'avais, les maîtresses que j'ai eues. Je suis la première à faire ça, en fait. Je suis la première dans toute ma lignée à faire ça. C'est-à-dire que toutes celles qui m'ont précédée, moi, je me dis toujours que quand elles regardent ce que moi, je suis en train de faire aujourd'hui, je pense qu'elles se disent... Ah, putain, on n'est pas passé pour rien, la petite.
Le chemin que continue à tracer. Justement, c'est bien de parler de cette généalogie de femmes. Parce que comme ça va pouvoir nous amener vers 2050 pour mesurer. Parce que 2050, maintenant, c'est 32 ans. C'est pas
32
si loin.
Ans. Bah, c'est une génération.
Voilà, c'est une génération. Donc, c'est pas si loin. Mais avant d'y aller, d'y plonger, je voulais quand même évoquer le recueil auquel tu as participé en tant qu'auteur. Tu es auteur, Axel. Et donc, le recueil s'appelle Les Volcaniques.
Volcanique, une anthologie du plaisir.
Oui, une anthologie du plaisir.
Voilà.
10 nouvelles, je crois. Hein. C'est 10 ou 12.
Nous sommes 12.
12. 12 femmes. 12 femmes noires.
Ouais, 12 femmes auteurs des mondes noirs.
Des mondes noirs.
Voilà, parce que c'était important de préciser qu'il n'y a pas un monde noir générique.
Oui, oui, oui.
Il y a plusieurs appartenances et il y a 50 000 nuances de noir.
Exactement, c'est ça. Rappelons-le, l'Afrique n'est pas un pays.
Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Et voilà. En tout cas, dans ce recueil, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire.
Merci, bah, c'est fait pour.
Et oui, la femme dans ses nouvelles... ce que j'ai vraiment relevé, c'est qu'elle prend du plaisir pour elle-même, par elle-même. Mmh. Elle découvre son corps, elle le comprend, elle en prend du plaisir. Et finalement, s'il fallait résumer en une phrase, c'est une fois qu'elle s'est pleinement accomplie, compris son corps, c'est là qu'elle est prête à le donner, à le partager,
c'est
en fait.
La base. Et tu ne peux pas aller vers l'autre tant que tu ne te connais pas toi. C'est, ouais. Il faut arrêter de dire aux gens autre chose. Il faut arrêter de dire aux filles que la révélation les attend entre les bras de leur partenaire.
Mais oui.
Mais c'est pour ça qu'on est dans la merde. Enfin, à un moment donné, non.
Ouais.
La révélation les attend entre leurs jambes.
Oui, voilà.
Derrière leurs lèvres. Le petit truc, là, ça s'appelle un clitoris.
Un clitoris, c'est que...
Joue avec, meuf.
C'est ça, exactement. La masturbation comme...
Comme
de redécouverte de,
pour moi, ça,
c'est de découverte un, de son corps.
C'est un, ouais, c'est un acte de développement personnel. C'est, c'est une vraie pratique de développement personnel. C'est, ça, tu seras la personne avec laquelle tu vas vivre le plus longtemps, c'est toi.
Oui, c'est ça.
Toute ta vie durant. Donc, quand même. Donc, je pense que c'est quand même important de s'apprécier en tant qu'entité, en tant qu'individu.
Ouais. Hein,
et je pense que il est important de s'apprécier au sens propre comme au sens figuré. C'est pour ça que je le disais, que mon féminisme, en tout cas, la manière dont je le conçois, est païen. Et que je me nomme une féministe païenne.
Ouais.
Parce que pour moi, ça s'incarne dans mon corps. Et que je ne conçois pas d'avoir des conversations sur le féminisme sans parler de l'intime et sans parler du corps. C'est juste irrecevable. Voilà. Et parler de ça... comme une démarche de développement personnel, parce que le politique est certes là, je suis absolument mobilisée sur les questions de droit, les conquêtes, la politique, la représentation, etc. Mais je trouve qu'il y a un angle mort qui est l'intime.
Mais oui, et comment la conquête de soi, c'est
et
ça.
La conquête de soi, mais où est cette conversation dans le féminisme? Là, on te... Là, le terme à la mode aujourd'hui, c'est la sororité.
Oui.
Mais je suis pour, hein, les filles. Hein. Moi, j'adore le concept et tout. Mais faudrait-il déjà entrer en amitié avec soi-même, non?
C'est ça. Ouais.
Donc,
moi, j'ai l'expression entrer en amitié avec soi-même.
Ouais, c'est Pema Chodron qui dit ça, et c'est le titre de ses bouquins. Et mais c'est tellement ça, quoi. Tu fais, mais à quel moment, si tu n'entres pas en amitié avec toi-même, tu vas pouvoir adhérer à un concept comme la sororité. Et moi, ce que je vois autour de ce concept-là, ce sont des femmes qui se détestent, qui ne s'aiment pas et qui font juste semblant d'aimer d'autres femmes en vue d'accomplir certaines choses. Mais en vrai de vrai, ça fonctionne pas. Et c'est pour ça que voilà, on est le concept ne prend pas comme il devrait prendre. Parce qu'en vrai, on a conditionné les femmes à se détester les unes les autres.
Ouais. Alors justement, allons en 2050, à l'échelle d'une génération.
Ouais,
comment tu vois, qu'est-ce que tu imagines comme
Alors
monde?
Moi, j'imagine qu'en 2050, le plaisir sera la chose à mieux partager entre les hommes et les femmes.
Ouais.
Voilà. J'imagine que les jeunes filles et dans les manuels scolaires, leur clitoris sera mentionné quand on te fera des schémas le concernant.
Ouais.
Petit salut à Michel Simès et son initiative de l'année dernière où il nous avait fait un guide destiné aux enfants avec la petite fille dessinée. Avec juste une zézette et un urètre parce qu'elle va faire pipi et qu'elle fait des bébés et qu'il n'y avait pas de clito.
Ah là là.
Voilà. Et d'accord. Que quand on lui avait fait la réflexion, la productrice, enfin celle qui était derrière l'éditrice du bouquin, avait eu l'audace de répondre qu'elle trouvait inapproprié de parler de leur clitoris à des gamines de 5 ans.
Oh là là.
Et là, tu frises. En fait, tu fais, mais en fait, moi, je vais t'expliquer un truc, meuf, 2 secondes. Parce qu'en plus, elle clamait être féministe. 5 ans, c'est exactement l'âge à laquelle, auquel, ou avant 5 ans d'ailleurs, les petites filles sont excisées dans le monde, en fait. Donc, en fait, mentionner ça à vos gamines de 5 ans, c'est un acte de résistance.
Ouais.
C'est pas la peine d'aller faire tous les défilés, machin et tout. Commencez juste par ça, déjà. Commencez juste par dire à vos gamines qu'elles en ont un, que c'est une bonne chose et que ça contribuera à leur...
plein épanouissement.
À leur plein épanouissement en tant que femme. Déjà, ça, si on arrive à mettre ça en place, ça serait formidable.
Ouais.
Voilà.
Donc, en 2050, ce chemin aura été fait pour que
je pense.
Le plaisir soit... de façon égalitaire, partagée.
Ouais, et que ce soit une conversation absolument banale comme celle qu'on est en train d'avoir aujourd'hui. Et qu'on se rappelle de ce qui se passait avant en se disant, putain, on vient quand même de là, quoi.
Ouais.
Sans déconner, en fait. Jusqu'à 2017, il fallait encore qu'on se bataille pour dire ce genre de choses. Bah non, maintenant on le dit.
Ouais.
Moi, j'imagine vraiment que ça, ce serait possible en 2050. J'espère, j'imagine aussi que voilà, les taux... de femmes, de filles et de femmes victimes de la pratique auront mais drastiquement baissé. Voilà, aujourd'hui on est enfin entre maintenant et on imagine que dans les qu'elles vont être 10 millions à faire non, est-ce que je dis une connerie, je crois c'est 30 millions qui risquent d'être sous le coup de la pratique dans les 10 prochaines années.
D'accord.
Donc, c'est beaucoup, 30 millions. De toute façon, c'est beaucoup parce que les chiffres d'aujourd'hui, c'est 200 millions de femmes à travers le monde. Et 200 millions de femmes, ça veut dire que c'est 6 fillettes par minute.
Ouais,
les gens,
oh là là.
Juste pour que vous compreniez bien de quoi on parle.
Ouais.
C'est 6 fillettes par minute dans le monde, dont la majorité ont moins de 5 ans. Voilà. On est face à ça et il y a vraiment nécessité de se mobiliser sur cette question-là. Et l'une des manières de se mobiliser sur cette question-là, si vous ne voulez pas voilà, devenir militant, vous n'avez pas les ressources, etc., c'est juste de parler et de rendre possible un espace où aborder le plaisir féminin, aborder le plaisir pour les filles, les adolescentes et les femmes, aille de soi. Ça, c'est le plus bel acte de rébellion qu'on puisse faire aujourd'hui. Et j'espère qu'on y sera, quoi.
Ouais. Alors ça veut dire que pour arriver à ça en 2050, ça, tu l'as dit dès l'introduction, finalement le plaisir féminin c'est connecté aux luttes sociales, aux sociétés patriarcales où l'homme c'est celui qui détient le pouvoir politique, économique. Donc ça veut dire que le monde aura radicalement changé ou c'est par la voie du plaisir que ça commencera à s'aimer sur les autres champs.
Je pense que le monde, enfin. De toute façon, pour moi, tout est interconnecté.
Ouais.
Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avoir un ouvrage comme celui d'Olivia Gazalet qui se pose des questions sur la virilité, c'est crucial. Il faut lire ce livre. Le mythe de la virilité, il faut le lire. Si on n'est pas déjà au courant, en tout cas, il faut le lire. Parce que c'est une autre manière de percevoir le masculin. Et notre salut viendra aussi du fait que les hommes eux-mêmes s'emparent de ces questions.
Parce que
vous êtes... Enfin, ils subissent autant ce système que nous. Et c'est pour ça qu'effectivement, je préfère le terme système patriarcal à les hommes. Parce que dans ce système patriarcal, les agents peuvent être aussi bien des femmes des hommes. Et je pense qu'un agent du système patriarcal, peut-être sans le savoir, c'est une mère qui ne transmet pas à sa fille le fait que avoir du plaisir, c'est une bonne chose. Une mère qui ne juge pas utile, même si elle n'arrive pas à le faire directement, mais qu'elle trouve des biais pour le faire.
Oui, c'est ça, des ressources pour en parler.
Franchement, c'est pas ce qui manque aujourd'hui pour que cette conversation-là aille de soi avec nos filles. Ce n'est pas possible que... c'était une enquête du Haut-Commissariat à l'égalité hommes-femmes de 2016 qui révélait qu'une fille sur quatre ne savait pas qu'elle avait un clitoris, ne savait pas.
Ouais.
C'est-à-dire que là, moi j'ai un petit problème, là on a un problème. Et que 83% des filles et 68% des garçons ne savaient pas à quoi ça servait. Donc là, moi je me suis arrêtée aux 68% de garçons parce que je me suis dit, Ah, il y a plus de garçons qui savent à quoi ça sert que de filles quand même. Donc, la merde, les filles, moi je voudrais dire à toutes les femmes que nous sommes, il y a comme un peu, il y a une couille dans le potage. Hein. Ouais. Là, c'est pas possible, ça peut pas être nos filles qui sont le moins informées sur leur corps.
Ouais. Voilà. Après, il y a un espace qui est celui de la pornographie, qui est quand même un espace... Alors, ça peut être plus ou moins bien fait, ou mal fait, mais qui donne à voir le plaisir. Mais aujourd'hui, globalement, ça reste le plaisir.
Le problème, c'est...
D'abord le plaisir masculin.
C'est le plaisir masculin. Ouais. Et puis le problème de la pornographie, en fait, au jour d'aujourd'hui. Alors, moi, je n'appartiens pas du tout à cette bande de gens qui pensent que le porno, c'est mal et c'est sale. Et de toute façon, c'est la fin du monde et tout. On a le porno qu'on mérite. Le porno, c'est le reflet de la société dans laquelle on est. Il est ni bon ni mauvais. Il ressemble juste aux humains que nous sommes. Et il reflète juste une chose, c'est notre incapacité à tous à parler de ces questions-là. Et c'est quand même fou. On est au troisième millénaire. La sexualité, c'est la chose la plus importante.
Ben oui,
c'est avec ça qu'on fait nos enfants. Et c'est le truc dont on a le plus honte de parler. Donc, en gros, dès que nos enfants arrivent, la première chose qu'ils intègrent, c'est « je suis conçue d'une manière honteuse ».
Oui, c'est ça.
Sans déconner, les gens. Si à un moment donné, on refuse d'avoir cette conversation sur le plaisir et sur la sexualité et sur ce à quoi ça ressemble, une sexualité choisie de part et d'autre avec deux sujets qui décident de faire quelque chose ensemble, c'est ce qu'on envoie comme message à nos enfants. Donc, bien sûr qu'on est dans la merde. Bien sûr que le porno, on ne peut pas demander au porno de faire un truc qu'il ne peut pas faire. C'est pas à lui de faire ça.
Non, c'est sûr.
Et nos enfants sont juste faits
normalement. Justement, parce que
c'est le premier endroit où ils vont aller chercher de l'info.
C'est ça. Cette conversation n'existant pas, ils vont la chercher
ils vont la chercher là. Il faut l'avoir ailleurs.
Est-ce qu'en 2050, on aurait peut-être autant de réalisatrices,
on
de
aura
productrices
autant Enfin, moi, je le souhaite. En tout cas, je pense qu'on aura autant de personnes désireuses de filmer une autre manière d'être ensemble. Voilà. Et je pense que ça va aller en se multipliant. Aujourd'hui, il y a quelques noms entre Erika Lust, qui est celle qui est la plus connue en la matière. Mais tu as également quelqu'un comme Ovidie.
Oui, qui est très connu, qui est juste...
Merci Ovidie d'exister. Qui a sorti un livre avec Digli qui s'appelle Libre, que je recommande vivement parce que vraiment...
Je mettrai une petite liste de tes propositions de lecture.
Vraiment, une petite réussite, un petit bijou juste pour apprendre, pour dire aux femmes et aux filles, mais arrêtez de vous flageller comme ça, en fait. Vous êtes très bien comme vous êtes, et en fait la révolution, c'est de vous accepter comme vous êtes. C'est pas de rentrer dans un moule pour plaire au plus grand nombre. La révolution, on la fait chacune à notre échelle, et c'est pour ça que pour moi, le féminisme est quelque chose qui est d'abord personnel et intime. C'est avant même qu'on parte sur les grands débats. Si tu arrives à incarner ça à une échelle personnelle et intime, ça va forcément se refléter dans tes rapports
aux autres.
Et déjà, ne serait-ce que la manière dont tu vas rayonner sur ton premier cercle. Ces gens-là, tu vas leur permettre de rayonner à leur tour. Et on va y arriver comme ça. C'est vraiment l'histoire du colibri. je crois profondément à ça. Chacun fait sa part. Et nous, pour ce qui est des femmes et pour ce qui est de ces questions-là, la part qu'on a à faire, c'est incarner la joie d'être femme. Il est temps qu'on incarne ça, s'il vous plaît.
Oui, on peut se dire que le plaisir et la joie, c'est ça qui sauvera le monde, qui changera le monde.
Pour moi, c'est le plaisir, enfin, c'est l'estime de soi et la sororité, mais pour le coup, une sororité qui sous-entend que toi, tu as fait le premier chemin avec toi, qui sauvera le monde. Vraiment, je suis convaincue de ça, on ne le fera pas toute seule. Mais si on est nombreuses à être alignées, en fait, c'est une histoire de conscience, c'est une histoire d'être alignée avec soi et avec les vibrations qu'on a envie de voir répandre dans le monde. Mais putain, mais on torche ça en une génération. Mais il faut juste qu'on se réveille.
Mais est-ce que... pour le coup, là, je parle bien des hommes. Est-ce que si chaque femme se réapproprie sa capacité à éprouver du plaisir, est-ce que les hommes vont pas avoir peur de se sentir inutiles?
Non, moi je pense que justement on les sous-estime parce que eux, ils ont un travail à faire pour restaurer la manière fausse dont on les a.
Dont
on leur a appris la virilité. Il faut qu'ils apprennent à restaurer le féminin en eux, comme nous. Pour moi, la masturbation, c'est restaurer le masculin en moi. Mmh. C'est prendre l'initiative. Ouais. Ça, c'est masculin. Mmh. C'est un acte qui est masculin. Mmh. Et ce masculin-là, je l'ai en moi, je le revendique et j'en suis très heureuse. Mmh. Et je pense que le féminin, pour parler des hommes, c'est accueillir, accepter d'accueillir le plaisir d'une femme. Ouais. Sans se sentir menacé par ce dernier, sans avoir peur d'être submergé par celui-ci. Mmh. Et on a un travail à faire de part et d'autre qui est de cet ordre-là. Ouais. Donc moi, j'ai extrêmement confiance parce que j'ai la chance d'avoir des amants qui étaient déjà sur ce chemin-là et je sais que c'est possible.
Ouais.
Mais ça parle aussi de construction personnelle, ça parle de conditionnement, mine de rien. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça dépend de chacun de nous. On peut partir d'histoires déplorables et dévastatrices. Et vraiment, là, pour le coup, je parle d'histoires familiales où tu dis, mais jamais. Mmh. Et avoir les ressources, ou en tout cas aller les chercher pour écrire une toute nouvelle page. Une page à laquelle on n'a jamais songé, se disant, mais tu sais quoi, moi, je vais être pionnière. À partir d'ici et maintenant, je suis une pionnière dans ce qui va être transmis à ma fille et à ma petite fille. Moi, je me retrouve là depuis un an en place de troisième génération.
Oui.
En fait, j'ai une fille qui a 25 ans, une belle-fille qui a 30 ans.
Oui.
Et ma belle-fille vient d'avoir une petite fille. Donc en plus, je me retrouve dans un truc de gonzesse encore une fois. Et pour le coup, avec l'arrivée de Lenny, ça a été genre, ah ouais, mais là, va vraiment falloir penser à ce qu'on va transmettre. Parce que moi, tout ce que j'entreprends à partir d'aujourd'hui, c'est de me dire, je veux que Lenny grandisse dans un monde où il sera possible pour elle d'être femme dans toute l'amplitude de ce que ça peut vouloir dire et dans toute la joie possible. Donc moi, mon boulot, c'est ça, c'est de déblayer ça pour le rendre possible pour Lenny.
Une responsabilité de transmission, j'aime bien cette idée-là.
C'est viscéral.
Pour moi, c'est de mère en fille, de grand-mère en petite-fille.
Alors, je pense que ça a quelque chose à voir aussi avec l'héritage africain qui est le mien. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça aussi qui traîne. Mais je pense que c'est vital et qu'en fait, il faut se poser la question comme ça, sans vouloir sauver le monde entier et toutes les femmes du monde. Déjà, à votre échelle, à vous, qu'est-ce que vous faites vis-à-vis des femmes qui sont, et des femmes et des jeunes filles qui sont autour de vous? Ce n'est pas forcément votre fille, c'est peut-être votre nièce, c'est peut-être une cousine, c'est peut-être des jeunes filles avec lesquelles vous travaillez dans le cadre de vos activités professionnelles. Mais vous avez une influence, elles vous regardent, ce sont des buvards. Il y a un âge où ce sont des buvards et où elles ont besoin de voir ce qui est possible et elles ont besoin de voir qu'on l'incarne. Vous pouvez leur tenir tous les discours possibles, machin et tout. Elles sont super futées, hein, à 14, 15.
Oui, elles sentent tout
elles
de suite.
Elles sentent quand c'est fake. Hein.
Ouais,
c'est
si un truc vrai ou pas.
Genre, waouh, ça pardonne pas. Et elles ont viscéralement besoin de ça, de pouvoir s'identifier à des gens qui osent être eux-mêmes, en fait.
Alors, il y a cette responsabilité individuelle.
Individuelle.
Mais en termes de responsabilité collective, parce que les 30 ans, on l'a dit, c'est une génération, c'est pas tant que ça. Quand on voit les pubs à la télé, ou les 4x3 dans les rues, où la femme est un objet qui porte de la lingerie sexy, est un objet qui mange un yaourt de façon langoureuse, est un faire-valoir du journaliste, parce qu'on... cette responsabilité collective, pour le coup, j'ai l'impression que...
Elle est toujours individuelle pour moi.
Ah, c'est vrai.
Même quand je regarde ça,
tu la ramènes
toujours
d'abord à cette responsabilité individuelle.
Vous êtes les fils de qui? Qu'est-ce qu'on vous a appris dans vos maisons pour que cette représentation-là, celle que vous nous offrez, soit possible? Qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui êtes-vous comme personne pour dessiner un board comme ça et imaginer que ça, c'est vraiment ce qui va se passer? Moi, je mets les gens en face de leur responsabilité individuelle.
Ouais.
Le collectif, ouais, mm-hmm. je l'observe, mais je me dis, le collectif s'est fait plein de sujets, en fait.
Oui, oui, c'est vrai. C'est
et
vrai.
Vraiment, il faut qu'on revienne, enfin, je trouve qu'il faut qu'on revienne à la perception, enfin, à envisager les choses dans ce sens-là, mm. de l'extérieur vers l'intérieur. Mm. Tenez les gens pour responsables de ce qu'ils font.
Ouais.
Parce que c'est trop facile, en fait, aujourd'hui, de dire, oui, mais...
C'est la société.
C'est la société, ouais, tu sais, après tout, c'est comme ça. Non, non. Toi, individuellement, chaque jour, tu peux faire un truc qui est juste. Mm-hmm. C'est juste que tu choisis de ne pas le faire ou que tu es trop feignant mm-hmm. pour le faire mm-hmm. ou que tu as intérêt à agir de la sorte parce qu'après tout, tu en tires toi aussi un bénéfice.
Ouais, ouais.
C'est pour ça qu'on est en train de faire les frais, mais on fait les frais, mais on fait tous les frais mm-hmm. de quelques-uns
ouais.
qui sont à un niveau zéro de conscience. Mm-hmm. Enfin, moi, c'est comme ça que je perçois. Et qui sont malheureusement souvent aux manettes
ouais,
des choses qui peuvent le plus nous impacter. Et où tu te dis, mais c'est pas possible. Recrutez vos équipes. Enfin, il faut vraiment qu'on se pose des questions sur l'individu et mm-hmm. sur l'intime, quoi. Parce ouais. que c'est comment le cerveau de ce monsieur s'est construit. Pourquoi est-ce que le sexe, ça représente ça pour lui? Parce qu'en ouais. fait, lui, ce qu'il veut vendre, c'est du sexe.
Hein. Exactement, c'est ça.
C'est clairement, c'est, ouais. on s'en fout complètement de l'équipement, d'une ouais. part, et on s'en fout complètement des gonzesses. Exactement. Enfin, c'est pas la cible, hein, ouais. donc, de toute ouais. façon, voilà. Mmh. Mais moi, j'aimerais bien qu'on ait une conversation sur le fait pourquoi est-ce qu'on construit nos filles si vulnérables mmh. que ce soit rendu possible.
Oui,
est-ce qu'on
ouais.
pourrait avoir une conversation là-dessus mmh. Parce que si on ne l'a pas, elles vont continuer à faire les frais mmh. de tout ce qui est le plus toxique dans mmh. notre société. Et il faut absolument armer nos filles mmh. En matière d'estime d'elles-mêmes
mmh.
pour qu'elles soient en mesure de détecter mmh. des gens qui peuvent profiter
ouais, c'est ça.
De voilà, des blessures qui sont les leurs, quoi. Mmh.
Et donc, les deux mots de pouvoir et de plaisir, finalement,
moi,
sont intimement liés.
Pour moi, c'est exactement la même chose. Mmh. À partir du moment où je sais comment fonctionne mon plaisir, où je sais qu'est-ce qui le suscite, que je suis... en mesure de me retrouver dans un espace public et juste par la force de mon esprit partir dans une fantaisie sexuelle qui mm-hmm. me plaît parce que c'est à cet instant T que j'ai décidé
oui, voilà.
ou qu'un monsieur est passé et que je me suis dit je dirais bien ou une dame des fois ouais. c'est aussi mm. des dames je trouve que ça c'est le pouvoir en
ouais,
fait. C'est ça le pouvoir parce que personne ne peut m'empêcher de faire ça. Et du coup, je ne suis tributaire de personne, je ne suis oppressée par personne, je ne suis la victime de personne, puisque je décide avec qui je vais pouvoir échanger, partager,
ouais.
Célébrer, fêter, jubiler, à ma guise de tout mon possible. Et je trouve que ça, ouais, mais c'est réjouissant, quoi. Mmh.
Et tu penses que quand tu regardes vers ce 2050, j'ai le sentiment que tu as une vision hyper optimiste.
Ouais.
Je suis fondamentalement. Mais optimiste ou utopiste? Tu penses être dans l'optimisme?
Non, je pense être dans l'optimisme parce que m'étant intéressée à ces questions depuis longtemps, et puis ayant vu le progrès fait sur la question autour des mutilations sexuelles féminines et le fait qu'on en parle tellement, vous pouvez même pas savoir d'où on vient, c'était un sujet qui était tellement tabou, c'était un sujet qui posait tellement de soucis à pas mal de gens. Aujourd'hui, voir qu'il peut être inclus dans un article comme celui que Maya Mazorette a écrit il y a quelques jours pour Le Monde sur le fait que les hommes féministes étaient des meilleurs amants. Et elle a fini l'article en mentionnant les mutilations sexuelles féminines. Les gens, ça avance. Ça avance. Mmh. Donc, je suis fondamentalement optimiste. Mmh. Mais il ne faut pas lâcher le morceau. Voilà. Ouais. Mmh. Et il faut accompagner le discours nécessaire, effectivement, sur les violences, d'un vrai discours subversif, puisque pour l'instant, ça l'est encore.
Oui. Ouais. Avant d'être banalisé en 2050, il est subversif aujourd'hui.
Voilà, aujourd'hui, il est toujours subversif sur le plaisir des femmes, la validité de leur plaisir et ouais, je suis d'accord avec à Nathalie Portman qui vient d'intervenir.
Voilà, et qui a parlé vraiment de désir et de plaisir.
La révolution du plaisir, voilà, mais Nathalie, mais quand tu veux.
J'ai trouvé ça très bien.
Voilà, ouais. Moi je suis pour ça. Mmh. Il faut qu'on s'y mette, en fait. Il faut y aller là. Ouais. On a les outils pour, on a des. Toutes ces conversations, les féministes des années 70 les ont eues. Hein. Nous, on n'a rien inventé, on n'a pas. Voilà, faut quand même rendre à César ce qui est à César. Sauf qu'elles n'avaient pas les outils qu'on a aujourd'hui. Mmh. Merci Internet. Mmh. Les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont, mais si vous vous en servez à bon escient,
ce sont des outils
aussi diffuser de très beaux messages. Mmh. Alors qu'on s'en serve, qu'on le fasse et qu'on popularise ça, parce que. Bah, notre avenir en dépend, en fait. Ouais. Moi, vraiment, je pense que foncièrement... Mmh. Et les choses s'amélioreront pour nous tous du privé vers le public. Mmh. Pas du public, vers le privé. Moi, je crois pas à ça, par contre.
D'accord.
Du tout.
Alors, pour conclure cette conversation, Axel, il te reste à formuler un vœu. Alors, il me reste à formuler un vœu.
Moi, je fais le vœu en 2050 que l'égalité érotique... se partage dans le respect mutuel.
Ah, très bien.
Voilà. Ouais. Voilà mon vœu.
Ah, bah, très bien. Et donc, comme ça, on peut dire à nos auditrices, mesdames, mesdemoiselles. D'abord, un message pour les mesdames, les demoiselles. Apprenez à découvrir votre corps, votre capacité à vous donner du plaisir et vous partagerez encore mieux.
Vous êtes faites pour ça.
Voilà.
Vous êtes, mais vraiment, on est les seuls dotés d'un organe qui n'est dévolu qu'à ça. Ce n'est pas un hasard. Ouais. Je pense encore aujourd'hui que les hommes se sont fait couillonner à la distribution. Je suis certaine.
Et donc, le petit message pour les messieurs, bon ben voilà, vous êtes fait avoir.
Et le message pour les messieurs, c'est suivez-nous sur cette route-là.
Voilà.
Ouais. Parce que de notre plaisir s'ouvriront pour vous des voies que vous n'imaginez même pas. Mmh. Suivez-nous.
Suivez-nous.
Voilà.
C'est bien.
Voilà.
Merci beaucoup à toi,
merci
Axel.
Rebecca.
Pour augmenter l'expérience de cette passionnante conversation, les abonnés à la newsletter auront le plaisir d'entendre la lecture d'un extrait de sa nouvelle intitulée « Païenne » dans le recueil « Volcanique, une anthologie du plaisir féminin ». Et pour poursuivre la réflexion sur ce plaisir au féminin, vous trouverez dans le descriptif de l'épisode les liens vers d'indispensables ressources que je vous cite rapidement. Le mythe de la virilité d'Olivia Gazalet aux éditions Robert Laffont. Je suis en train de lire ce livre, rien de moins qu'une révélation. Libre, manifeste pour s'affranchir des diktats sexuels, d'Ovidie, chez Delcourt dans la collection Tapas BD. Le documentaire The Mask You Live In. Le magazine Hebdo dans sa troisième édition intitulée Au plaisir des femmes. Le nouveau magazine littéraire avec son numéro spécial Notre Révolution. Et pour finir, l'intervention lors d'une conférence TED en octobre 2016 de Peggy Orenstein sur le thème What Young Women Believe About Their Own Sexual Pleasure. Je vous laisse maintenant vaquer à vos occupations. Mais attendez un instant, si cet épisode vous a plu, s'il vous inspire, partagez-le largement sur les réseaux sociaux et laissez-moi quelques précieuses étoiles accompagnées de votre avis sur iTunes. Oui, je radote, je l'avoue, mais grandir pour un podcast, c'est être vu, que dis-je, être entendu. Et amis auditeurs, vous en êtes mes meilleurs ambassadeurs et ambassadrices. Sur ce, retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle conversation. D'ici là, soyons attentifs au monde. D'ici là, prenons soin de nous. D'ici là, prenons du plaisir. D'ici là, soyons toujours curieux.